Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Cette nuit, vous l'avez entendu, des tirs ont été échangés entre l'Iran et Israël. Pour en parler, je suis en ligne avec Jean-François Bayard. Bonjour.
Bonjour.
Jean-François Bayard, vous êtes professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. Vous avez notamment publié « Globalisation et repli identitaire à la découverte ». Votre analyse sur ce qui s'est déroulé cette nuit et plus généralement sur cette tension très forte entre l'Iran et Israël ?
Le risque, c'est évidemment la dérive militaire, le faux pas militaire, mais je pense qu'il faut garder la tête froide parce que Israël, ou au moins certaines composantes de l'État israélien et certaines composantes de l'État iranien se connaissent finalement fort bien, sont des acteurs rationnels et aucune des deux parties n'a intérêt à une escalade incontrôlée. Le risque sont plutôt les fauteurs de troubles, si je puis dire, un Netanyahou qui est dans une situation intérieure extrêmement délicate et qui risque d'instrumentaliser la crise pour des fins électoralistes, un prince héritier MBS en Arabie Saoudite qui est un déstabilisateur de la région, hein. On se souvient de la confrontation qu'il a engagée avec le Qatar, de son intervention militaire absolument catastrophique au Yémen en mars 2015, et puis naturellement l'imprévisible M. Trump. Ça, ce sont de vrais éléments de préoccupation. Mais Israël, et je pense notamment à l'armée et au Mossad israélien d'une part, et d'autre part à ce qu'on pourrait appeler l'appareil sécuritaire, moi je préférerais dire l'appareil de défense nationale que représente le président Rouhani, sont des acteurs rationnels qui se connaissent très bien, qui sont dans une relation d'inimitié complémentaire, pourrait-on dire, mais qui, par exemple, n'ont pas hésité à collaborer pendant la guerre de 1980-1988 entre l'Iran et l'Irak. Il y a eu des plans de collaboration, y compris de livraison d'armes, etc., entre ces deux pays qui, par ailleurs, sont naturellement dans une relation d'hostilité. Donc je crois qu'il y a une grande imprévisibilité de la crise du fait de certains trublions, M. Netanyahou, le prince héritier Salman et Donald Trump, les deux appareils de défense nationale qui se sont affrontés cette nuit se connaissent bien et à mon avis peuvent garder le contrôle du jeu militaire.
Alors il y a quand même beaucoup d'inconnus et notamment l'une des inconnues, c'est la réaction des Russes. Que peuvent-ils faire? Ils sont dans ce jeu-là aussi en Syrie. L'Iran, c'est leur allié. Jean-François Bayard, selon vous, comment pourraient réagir les Russes et Vladimir Poutine?
La Russie a beaucoup investi dans la crise syrienne. On a tiré beaucoup de bénéfices diplomatiques et militaires, a sauvé le régime Assad. Et aujourd'hui, qu'on reconsidère peut-être son engagement qui, financièrement, est très coûteux. Et je pense que la Russie ne pourra pas aller très très loin au-delà de ce qu'elle a déjà gagné. La Russie, par ailleurs, est un acteur, et c'est sans doute le seul dans la région, qui a des excellente relation avec toutes les parties prenantes. La Russie dialogue intensément avec la Turquie et très proche de l'Iran, même si il y a des clivages entre les deux pays. Naturellement, a sauvé le régime Assad, mais a également de très bonnes relations avec Israël. Donc la Russie est effectivement un acteur absolument clé, là où les Américains se sont empêtrés dans leurs contradictions. Ils sont à la fois trop absents et trop présents dans cette crise.
Et aujourd'hui, l'autre interrogation, puisque vous avez écrit un ouvrage consacré à la globalisation et au repli identitaire, c'est la manière dont la ligne de fracture entre sunnites et chiites est en train de réorganiser les cartes au Proche-Orient. Et là, on le voit bien, notamment avec le poids de l'Iran, la crainte suscitée par l'Iran et les alliances, nouvelles alliances avec Israël, Jean-François Bayard.
Je relativiserais beaucoup cette dimension identitaire et notamment religieuse dans la configuration conflictuelle. Par exemple, le régime d'Assad qui s'appuie en partie ou largement sur la minorité alaouite, parfois qualifiée de chiite, n'a pas de relation à proprement parler religieuse avec l'Iran. Les alaouites ne sont pas des chiites au sens iranien du terme. Les relations religieuses sont beaucoup plus fortes entre le Liban et l'Iran, par le biais notamment des grandes villes saintes irakiennes de Najaf et de Karbala, mais contrairement à ce que l'on dit souvent, les gardiens de la révolution, par exemple, ne sont pas forcément très à l'aise, je dirais culturellement, avec leur allié militaire, le Hezbollah, parce que le Hezbollah est quand même très enraciné dans une réalité sociale et nationale libanaise, qui ne correspond pas à l'éthos révolutionnaire et islamique des gardiens de la révolution. De même, la minorité Houthi, que l'Iran est supposé soutenir au Yémen, n'est pas si chiite qu'on le dit. Le soutien d'ailleurs de l'Iran au Houthi a été très largement surestimé pour des raisons idéologiques et de propagande.
Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon vous, on a affaire à des identités factices, à des identités de circonstances pour justifier a posteriori des alliances?
Non, cela veut dire que nous sommes devant un conflit ou une imbrication de conflits qui sont fondamentalement politiques et qui opposent entre eux des États-nations plus ou moins d'ailleurs structurés. L'Iran, la Turquie et Israël sont trois acteurs étatiques, très très structurés, très institutionnalisés, là où évidemment le Liban, l'Irak, l'Arabie Saoudite et a fortiori les États, les pétromonarchies du Golfe sont des états familiaux, des états confessionnels beaucoup plus divisés. Donc c'est un conflit politique avec des rationalités d'état. Nous n'oublions pas que la grande institution en Iran, plus importante peut-être que le guide de la révolution, c'est le conseil de discernement de la raison d'état, dont Rouhani d'ailleurs est une émanation d'une certaine manière. Donc je crois que ce sont des conflits, c'est une série de conflits qui ébranlent et qui mettent en jeu un système régional d'état au sens le plus classique du terme. La dimension religieuse est tout à fait secondaire par rapport à cela.
Alors, vous parlez de rationalité étatique. Est-ce que ça signifie, Jean-François Bayard, alors c'est impossible évidemment de prévoir l'avenir, mais est-ce que cela signifie qu'on a affaire à une escalade formelle des échanges de tirs, mais des échanges de tirs qui en resteront là maintenant que chaque État a montré sa capacité à viser l'autre ?
Il y a toujours un risque de dérapage qu'il ne faut pas sous-estimer, mais je ne pense pas que la raison d'État commande par exemple à Israël d'engager une confrontation militaire avec l'Iran, alors même que le Hezbollah est devenu une puissance militaire tout à fait conséquente qui a déjà infligé une défaite à Tsahal il y a quelques années au Liban. Donc ça n'est pas dans l'intérêt d'Israël que de monter aux extrêmes. De la même façon, il ne faut naturellement pas prendre au pied de la lettre la logorée pseudo-révolutionnaire de l'Iran quand il crie mort à l'Amérique ou mort à Israël. Il n'a jamais été dans l'agenda de la République islamique de risquer la survie de son État pour en attaquant Israël et en remettant en cause l'existence d'Israël. Les Iraniens sont beaucoup plus pragmatiques que ne le laisse à penser leur slogan idéologique.
Merci beaucoup Jean-François Bayard. Je rappelle que vous êtes professeur à l'IHEID et que vous avez notamment publié Globalisation, repli identitaire à la découverte et aussi L'impasse nationale libérale. 7h25 sur France Culture.